Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Virginia Marcus, bonjour.
Bonjour.
Vous nous accueillez à Frenières-sur-Bée dans votre sanctuaire de l'association Coexister que vous avez créé il y a 6 ans maintenant. On va évidemment parler de la vie de cet endroit, de ce mot de sanctuaire d'ailleurs, hein, qui est pas anodin, qui est étonnant. Et puis on va parler un petit peu de vous, de votre vie de militante. Ce lieu, bon, pour moi cette émission c'est un lieu aussi, hein, les gens choisissent le lieu. Pour vous ça tombait sous le sens d'être ici?
Oui, évidemment, parce que le sanctuaire Coexister est porteur de nombreux messages, donc quoi de mieux que de vous accueillir ici pour en parler directement.
Et puis c'est devenu le centre absolu de votre vie.
Oui, alors clairement, la priorité absolue est la cohabitation quotidienne avec des vaches, des moutons, des cochons qui m'en apprennent tous les jours, beaucoup sur le monde en fait.
Alors le principe, hein, je parlais de ce mot de sanctuaire. Moi j'ai visité des sanctuaires d'animaux, j'ai travaillé en Afrique pendant quelques temps, j'ai visité un sanctuaire de gorilles, j'ai visité un sanctuaire de bonobos. Et puis la notion de sanctuaire de nos animaux à nous, de nos animaux, de nos cartes postales, de nos visites en montagne, de notre pays, c'est vrai que au départ elle est étonnante. On se dit, mais pourquoi ?
C'est vrai qu'on a plus l'habitude du terme de refuge. En fait, on parle souvent de refuge pour animaux, pour des chiens, pour des chats, pour des lapins, etc. Parce que ce sont des lieux où des animaux sont accueillis pour être replacés dans des familles plus tard. Et c'est vrai que le concept de sanctuaire, pour moi, faisait sens pour deux raisons. La première, c'est que dans un sanctuaire, en principe, le but, c'est d'offrir une vie au plus proche des besoins des animaux, mais aussi une mort la plus sereine et paisible possible. Et donc ça, c'est important. Un sanctuaire, c'est un lieu où on va se reposer de notre vivant et de notre mort aussi. Et la deuxième raison, c'est parce que les animaux qui arrivent ici, en principe, ne sont pas replacés. À part, ça arrive, hein, quand il y a des exceptions vraiment où on sait qu'il y a des animaux qui seraient mieux encore ailleurs, et ben on les replace. Mais en principe, tous les animaux que vous rencontrez aujourd'hui vont rester là toute leur vie et mourront ici aussi.
Et donc, il y en a qui arrivent jeunes, hein?
Oui, il y en a qui arrivent très très jeunes.
Ils vivront leur belle vie et ici.
Ouais. Tout à fait.
On peut dire que c'est les chanceux de la bande, quoi.
Oui, c'est ça.
D'où viennent-ils ces animaux ? Qui sont-ils ?
Alors les animaux que vous voyez ici ont tous pour point commun le fait qu'ils ont échappé à l'abattoir. Maintenant ils viennent de différents types d'élevage et aussi de laboratoires. On a des cochons rousses qui viennent de laboratoires par exemple. Donc le but c'est que...
Labo, recherche médicale, recherche industrielle, etc.
Tout à fait. Et donc le but c'est que les éleveurs, les éleveuses ou des voisins d'éleveurs-éleveuses ou des intermédiaires nous contactent quand il y a un animal qui devrait partir à l'abattoir et pour lequel il y a une autre fin possible. Et en fait quasiment systématiquement, ce sont les éleveurs-éleveuses qui nous contactent directement parce qu'ils sont attachés à une vache en particulier, par exemple. Et donc, ils sont plus en paix avec leur conscience de nous la céder plutôt que de l'envoyer à l'abattoir.
Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous avez dit parce qu'on vous a mis, vous vous êtes mise vous-même, hein, dans une période militante dont on parlera dans la deuxième partie en opposition avec l'exploitation animale. Et puis j'ai noté à travers quelques articles de presse, interviews qui vous sont consacrés, une sorte d'apaisement avec le monde agricole. Pas tout le monde agricole, évidemment, mais vous dites il y a beaucoup de paysans, d'exploitants qui viennent et qui disent « bon, ben, j'aimerais qu'un animal finisse ses jours chez vous
». En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même à l'époque où j'étais militante désobéissante civile, voilà, où je bloquais des abattoirs, des routes, que je libérais des animaux, que je posais des caméras cachées, etc., en fait, mon but n'a jamais été d'attaquer individuellement les éleveurs, les éleveuses, mais de dénoncer un système qu'il faut remettre en question. Et donc, ça fait totalement sens. Aujourd'hui, au sanctuaire, ça fait 6 ans qu'on est installé ici avec les animaux, bah on a dû créer des liens avec des agricultrices et des agriculteurs de la région, même plus loin aussi. Et en fait, dès le début, ces personnes, quand elles viennent me trouver, elles me disent « mais en fait, t'es beaucoup plus ouverte et tolérante que ce qu'on croit ». Et je dis « bah évidemment, parce que quand on milite, on doit faire passer un message en particulier, mais mon but n'a jamais été d'attaquer individuellement les gens, mais plutôt de réfléchir ensemble à des solutions ». Et donc, ce sanctuaire, aujourd'hui, accueille régulièrement des personnes de l'agriculture pour des visites, pour des discussions. C'est devenu la norme, quoi.
Mais donc, il y a des animaux qui viennent finir leur vie ici, qui étaient destinés à l'abattoir. C'est toujours une affaire d'attachement de l'éleveur, une sorte de miracle, hein, pour l'animal, en tout cas, où il peut y avoir d'autres raisons, comme des mesures d'hygiène, des mesures...
Ouais, alors il y a plusieurs raisons. Je dirais que la raison principale, c'est vraiment l'attachement d'un éleveur avec un animal en particulier. Et ça, c'est la raison principale. Et là aussi, on voit qu'il y a eu un changement de perception de mon activisme et de l'association, parce que ce sont les éleveurs-éleveuses qui me contactent directement. C'est plus tellement des intermédiaires. Les deux premières années, c'était souvent des intermédiaires, des voisins, des amis, d'éleveurs-éleveuses qui essayaient de les convaincre de céder un veau, une chèvre, un mouton, etc. Et là, aujourd'hui, c'est différent. La deuxième raison pour laquelle des animaux arrivent ici, c'est plus rare, mais ça peut être des saisies ou des séquestres du service vétérinaire qui vont séquestrer des lieux qui ne sont pas aux normes. C'est quand même beaucoup plus rare chez nous. C'est quand même le lien direct avec les éleveurs et les éleveuses ou les laborantins. Ça arrive aussi, tout d'un coup, qui s'attachent à certains individus sur lesquels ils pratiquaient des expériences et ils négocient avec leur direction pour pouvoir les céder à des sanctuaires.
Parce qu'a priori, un animal de laboratoire, une fois qu'il ne sert plus à l'expérience, il est envoyé à l'abattoir. Enfin, c'est...
Soit l'euthanasie, soit à l'abattoir. Ouais. C'est systématique. Mmh. C'est très, très rare que des animaux sortent de laboratoire, honnêtement.
Bon, donc c'est fragile, hein. Ça tient à une sorte de relation, vous y croyez ferme, hein, la relation entre l'humain et l'animal, et moi aussi du coup, hein, je me balade toujours avec ce petit machin poilu là, qui est avec nous, Tchelo. Il y a des animaux qui arrivent ici alors, pour vivre leur fin de vie après une relation particulière avec un éleveur, une éleveuse, et puis c'est plutôt une jolie histoire. Il y en a aussi qui arrivent dans un sale état.
Bien sûr. C'est certain qu'il y a des animaux qui vont arriver ici en relativement bon état, jeunes, etc. Simplement, ils ont échappé au couteau. Et d'autres viennent d'élevages qui étaient maltraitants ou négligents aussi. Et soit ce sont des intermédiaires, soit les autorités vétérinaires. Même des fois, ça arrive que les éleveurs eux-mêmes se rendent compte qu'en fait, l'animal est complètement négligé dans son endroit. C'est très rare, mais ça arrive. Et donc, est d'accord de le céder. Et ça arrive aussi régulièrement que des éleveurs-éleveuses nous contactent parce qu'ils envisagent une reconversion et qu'ils nous demandent de replacer les derniers animaux dans des sanctuaires ou chez nous ou ailleurs. Et donc, ça aussi, c'est une raison.
Parlez-nous de ce mot reconversion, hein. Ça veut dire éleveur-éleveuse qui quitte l'élevage, ou est-ce qu'on peut faire de l'élevage autrement?
Non, alors le but c'est qu'ils quittent l'exploitation animale dans son ensemble, c'est-à-dire qu'ils vont opter pour d'autres métiers, que ce soit dans l'agriculture ou non, mais dans lesquels il n'y a plus d'exploitation animale possible, donc plus de reproduction, plus de production laitière, plus de production pour la viande, des œufs, du miel, etc. Mmh. Et donc ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'est vraiment une des missions principales de notre association et c'est vraiment avec celle-ci qu'on est la plus active aussi.
Bon, on va en parler tout de suite puisqu'on y est. C'est très intéressant parce que vous avez été dans un moment médiatisé, qui dit médiatique, je suis payé pour le savoir, dit brusque, hein, dit que les choses forcément sont blanches, noires, on oppose les gens, etc. Vous êtes passé devant des tribunaux, donc ça met une tension dans la relation humaine. Là, vous êtes sorti de cela, donc vous pouvez côtoyer un monde paysan. Alors, pas de généralité, bien sûr, mais vous sentez justement cette remise en question, cette espèce de lumière éthique qui tombe sur, non pas encore sur des individus, mais sur le système.
Alors, je dirais que les actions de militantisme passées ont forcé un débat public qui était nécessaire. Et forcément, il y a des gens qui étaient très mécontents de ça, de mon engagement, des actions d'autres associations aussi. Mais en fait, ces actions ont permis de débattre vraiment très concrètement de l'éthique sur les animaux. Et 10 ans plus tard, ce dont on se rend compte, c'est que le système politique a pris en compte la préoccupation sociétale qui est celle de la cause animale, du bien-être des animaux. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une préoccupation sociétale et pas que des associations animalistes. Et donc, typiquement, la nouvelle loi agricole pour 2030 à l'échelle de la Suisse va vraiment végétaliser l'agriculture, par exemple. Ça, c'est un truc que j'aurais pas pu voir de mon vivant. Enfin, je pensais pas voir ça de mon vivant. Mmh. Finalement, ça s'est fait. Et donc, avec le recul, évidemment, les politiciens, politiciennes...
Vous risquez de voir des trucs de votre vivant. Vous êtes jeune.
Oui,
hein,
je sais, mais j'étais toujours très pragmatique sur ce sujet. Et je
un
me
peu
suis
pessimiste,
dit, je pense
du coup,
que... Ouais, pragmatique, bon, je dirais. Dans
raisons, les raisons de l'optimisme ne sont pas toujours évidentes.
Voilà, hein, ouais. Je ne me suis pas engagée pour me dire je vais voir de mon vivant la fin d'exploitation animale, mais c'était viscéral, il fallait que je m'y engage. Donc je sais que le monde politique ne va jamais ou rarement saluer le travail des associations ou des personnes qui ont fait de l'activisme dissident même. Hein. Mais en fait, on y a contribué à ce changement de société. Ça, j'en suis persuadée parce que c'est par le biais de nos actions et de leur médiatisation qu'on a pu faire réfléchir les gens et aussi les personnes de l'élevage. Là, toutes les personnes qui sont issues du milieu agricole qui viennent me trouver me disent toujours au début, ils avaient tous envie de me casser la gueule, ce qui est légitime et compréhensible. Mais maintenant, on est vraiment
légitime.
Légitime de leur point de vue. Je dis pas que voilà, il faut le faire, mais de leur point de vue, je venais vraiment mettre.
C'est souvent vous les activistes qu'on taxe de violence. Bah
oui,
pas qu'elles soient dans l'autre sens
non
plus. Hein.
C'est clair. Mais disons que là, il y a un vrai dialogue qui s'est instauré avec le milieu agricole. Moi, j'ai fait une formation d'agricultrice que je viens de terminer cet été. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est installé. Et en fait, le dialogue a été possible. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au sanctuaire et qui me disent ah mais en fait, on voyait pas les choses comme ça. Moi, on me dit on te voyait comme une bobo de la ville qui fait des grandes théories, mais qui qui sait rien faire. Puis quand ils voient ici très concrètement comment on accueille les animaux, comment je gère des fois des situations d'urgence avec des soins sur des grands animaux de 700 kilos, etc. Ben, y a même des éleveurs éleveuses qui me disent, mais en fait, nous, on n'aurait pas pu faire ça comme ça. Et c'est pas du tout de façon prétentieuse que je dis ça, mais je dis juste que le dialogue a pu se créer par ce sanctuaire, par ce biais-là. Et ça, c'est d'où la création de ce genre de lieu montre à quel point ces projets sont essentiels, parce qu'ils permettent la rencontre.
Il y a aussi, vous voyez le pas qu'on fait vers vous, certains éleveurs, éleveuses, agriculteurs. Il y a aussi un pas que vous faites vers eux. Vous avez fait une école d'agriculture, vous voyez à quel point cette vie est dure. Je ne veux pas faire le cliché de la fille de la ville qui vient s'installer à la campagne, mais enfin, c'est quand même ce qui est arrivé pour vous. Vous venez de Genève, vous êtes une urbaine. Est-ce qu'en vivant la vie, saison après saison, ce n'est pas toujours beau et ensoleillé comme aujourd'hui, vous vous êtes rapproché d'eux, du coup, clairement, de leur vie dure?
Oui, clairement. En fait, ça fait 6 ans que j'ai le quotidien d'une paysanne. À quelques détails près, franchement, on a le même quotidien, sans vacances, 14 à 16 heures de travail par jour, c'est une constante. Et puis, s'occuper des animaux avec ses adaptations météorologiques, etc. Donc, en fait, clairement, de vivre leur réalité, de parler leur langue d'une certaine façon et d'avoir fait cette formation-là récemment aussi, ça m'a permis de m'immerger complètement dans ce milieu, de confirmer ce que je pense par rapport à l'exploitation animale. Très clairement, je pense que là, il y a vraiment encore tout à faire. Mais disons que j'ai beaucoup aussi appris sur d'autres sujets. Et l'échange, il va dans les deux sens. Il y a beaucoup d'éleveuses et éleveurs qui viennent me trouver, qui ne réfléchissaient pas à leur pratique forcément avant. Le fait de les accueillir ici au sanctuaire, de voir le lien qu'on peut avoir, qui est différent avec les animaux, ça les fait réfléchir. Et donc oui, je pense que ça va dans les deux sens. Là, pour prendre un exemple, pendant ma formation d'agricultrice, je ne pensais pas voir, même dans les classeurs de cours, une réflexion sur les conséquences environnementales de l'élevage ou ce genre de choses. Je ne pensais pas voir ça. Et en fait, je pense que récemment, quand même, il y a eu une mise à jour qui a été faite, quoi. Donc, bien
ça, c'est
sûr,
les changements à bas bruit. Hein.
C'est très intéressant.
Je les recherche dans ces interviews. Je fais une interview il n'y a pas très longtemps avec une exploitation de permaculture où aussi on se rend compte qu'à bas bruit, ben, les instances fédérales vont vers des choses moins liées à la chimie, etc. Et ça, c'est dû justement au changement de l'opinion publique.
Mais oui, clairement. Et d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les surfaces de promotion de la biodiversité dans l'agriculture à l'échelle fédérale. C'est vraiment quelque chose qui est très contrôlé aujourd'hui. Les agriculteurs sont encouragés à mettre en place des surfaces de promotion de la biodiversité. Ça, on n'en parle jamais dans les médias parce que, évidemment, ça fait moins vendre qu'une action choc. Hein. Vous êtes bien placé pour le savoir. Mais en fait, on voit que ces actions ont permis ce genre d'installation progressive au niveau politique, que ce soit par rapport aux pesticides, à l'environnement, à la biodiversité, mais aussi les animaux eux-mêmes. Donc je trouve très intéressant ça. Et puis au final, dans la classe, il y avait un bon tiers de personnes dans ma classe avec lesquelles le dialogue était vraiment installé, sincère. Il y a eu des réflexions, même avec les enseignants des fois. Je ne dis pas avec tout le monde, mais... Et donc je trouvais ça très enrichissant, vraiment.
Bon, vous avez fait en tout cas ce pas d'aller vers le monde qui est le vôtre aujourd'hui. On va continuer à parler un peu de cette association coexister beaucoup. Hein, on va en parler beaucoup dans la deuxième partie de cette émission qui approche. On parlera aussi de votre action militante.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Virginia Marcus, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On est chez vous, hein, dans ce lieu un peu magique, sanctuaire. Ça fait déjà un peu miraculeux, hein, comme endroit où des tas d'animaux vivent autour de vous pour, on l'a compris, avoir une fin de vie et une vie parfois entière digne et respectée. On est là à la montagne, on est dans le Chablais. Vous venez, je l'ai dit tout à l'heure en première partie, plutôt de la région genevoise. Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu ici en fait? C'est une opportunité, terrain
Oui, c'est une opportunité, le destin qui m'a catapulté dans la montagne alors que j'étais sûre de finir ma vie plutôt en bord de mer. Mais voilà, donc j'ai dû tout apprendre aussi en venant ici et puis qu'on s'installe dans la région de façon durable, quoi. Donc clairement, j'étais pas prédestinée à venir à Fresnières-sur-Bée, mais maintenant je m'y sens bien et je crois que les animaux aussi, et c'est ça l'essentiel.
Bon, j'aimerais qu'on parle d'un dernier aspect de ce sanctuaire, de cette association, avant de passer à la partie militante. Vous l'avez dit dans la première partie, beaucoup d'éleveurs viennent vous voir, d'éleveuses. Il y a du public aussi, la sensibilisation comme un lieu public de visite. Vous allez nous dire comment ça se passe, c'est sur rendez-vous, on peut venir frapper à la porte. Voilà.
Oui, tout à fait. Il y a 4 grands pôles, disons, que mène l'association, et la partie pédagogique, elle est essentielle. On fait énormément de visites institutionnelles, des visites aussi tout public, et ça, tout au long de l'année, on a des événements. Ça peut être des journées bénévolat pour aider sur le terrain, mais ça peut être des activités vraiment sorties scolaires, sorties d'entreprise. On a des fois des entreprises qui viennent faire du team building ici. Et l'idée, c'est que les gens puissent rencontrer les animaux en tant qu'individus, et qu'on sorte de ce rapport où, voilà, on voit un groupe au loin d'animaux, on a l'impression que c'est juste des vaches. Et en fait, non, on va rencontrer Toscane, on va rencontrer Fortuna, Bercosma, Cosmic en tant qu'individu, avec leur personnalité propre. Et c'est ça qui vient vraiment toucher le cœur des gens. Moi, je ne fais pas de militantisme actif sur le terrain, dans le sens où j'ai l'impression juste de faciliter la rencontre pour que les gens puissent réfléchir par eux-mêmes à qui ils ont en face. Donc, bien sûr, je raconte l'histoire des animaux, ça, c'est, voilà, ce sont juste des faits. Et ensuite, les gens vont se poser des questions, me poser des questions, et comme ça s'installe le dialogue. Donc, il n'y a pas. Voilà, c'est vraiment fondamental. Tous les âges, d'ailleurs, à partir de 7 ans, on accueille des groupes ici. Ça peut être même des familles. Enfin, voilà. Donc, c'est très essentiel.
Quand vous dites visite institutionnelle, on a du monde politique qui vient, des services
aussi,
de l'État.
Aussi, et puis ça peut être des foyers, des classes, ça peut être des institutions comme celle-ci, des institutions sociales, mais parfois aussi des partis politiques qui viennent visiter, ça peut être des autorités aussi. Donc c'est très intéressant parce qu'il y a quelques années, j'étais décriée comme une terroriste, pour la faire simple, même par les autorités et le monde politique. Et aujourd'hui, bah, ces deux instances viennent en fait au sanctuaire et on dialogue ensemble vraiment beaucoup. Et d'ailleurs...
Et tout ça sans passer par la case prison, pas mal.
Ouais, j'ai pu éviter ça. J'ai quand même eu un procès avec une condamnation.
Non, parce
mais
que
j'ai
pour
eu...
qu'on convertisse
évidemment.
Les terroristes en quelqu'un de bien, il faut, comme Mandela, passer 27 ans en prison.
Ouais, bah, heureusement, j'ai pu éviter ça.
Vous avez
ça.
Un passage plus serein. Bah, ouais. C'est la bonne occasion de parler de cela. Vous avez eu une période, en effet. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ce changement de période, parce que on vous a connu donc avec des actions militantes, toujours non violentes, je le précise, poser des caméras dans un abattoir, voilà, il y a eu des affaires, il y a eu des procès, il y a eu aussi une exposition médiatique forte, et puis vous êtes entré dans l'écriture, et je ne sais pas si l'écriture est un de ces moyens de reconversion militante en fait. Vous êtes aujourd'hui dans un militantisme de terrain et plus dans un militantisme d'action. Pourquoi ?
Alors, en fait, quand j'ai commencé à militer, j'avais un besoin viscéral de passer l'information de choses que je voyais, mais qui étaient passées sous silence, en fait, globalement en société. Et donc, j'ai commencé par enquêter sur l'industrie suisse du lait, parce qu'elle est emblématique, évidemment, de notre culture alimentaire. Et j'ai passé une année à enquêter de nuit dans
faut,
les
faut
élevages
rappeler,
et les abattoirs.
Le lait, oui. Le lait, ça a l'air mignon, quoi.
Ouais,
on fait boire du lait à nos enfants. Le lait, ça veut dire un veau, et ça veut dire qu'on sépare le veau, puisqu'il faut que le lait du veau nous revienne à nous, quoi.
C'est ça. En fait, on a complètement biaisé les liens naturels des espèces utilisées pour le lait, que ce soit les vaches, les chèvres, les moutons, les brebis. Et en fait, donc oui, pour produire la lactation, pour stimuler la lactation d'une vache, il faut la production d'un veau. Donc, il faut qu'elle soit gestante. Et ça, les gens ne le savaient pas. Moi, je ne le savais pas jusqu'à mes 24 ans, donc c'est pour dire. Et donc on sépare le veau de sa mère, le veau part à l'abattoir si c'est un mâle pour la faire courte, et la vache sera inséminée à répétition chaque année et exploitée jusqu'à ses 5, 7, 8 ans selon
c'est
comment.
C'est peut-être pour ça qu'on mange du veau aussi, hein, parce
aussi,
que c'est pas logique de ne pas laisser
tout
grandir un animal pour qu'il y ait plus de viande, plus de poids.
Ouais.
On mange du veau pour qu'il y en ait un autre l'année suivante.
Ça c'est, voilà, il y a certains, voilà, dans la variété de produits alimentaires issus de l'exploitation animale, il y en a beaucoup, mais la viande de veau, ça en fait partie. Et ce qu'on oublie aussi beaucoup, c'est que la vache qui sera inséminée et productrice de lait pendant 5, 7, 8 ans, elle va aussi finir à l'abattoir, de toute façon. Donc, tout est interrelié. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit, si moi, à 24 ans, je ne savais pas ça, c'est qu'en société, globalement, on ne veut pas que ça se sache. Donc, je suis partie sur le terrain, j'allais de nuit dans des élevages et des abattoirs, et en journée, je faisais beaucoup d'entretiens avec des personnes impliquées dans l'industrie laitière, à tous les échelons. Et donc, j'ai commencé par écrire un livre, en fait. Mais évidemment, médiatiquement, c'est moins intéressant de parler d'un livre que d'un blocage abattoir ou d'enquête. Donc, mon premier livre s'appelle « Industrie laitière, une plaie ouverte à suturer », qui accompagnait des images, en fait. Et ce livre, il avait déjà pour vocation l'information, la sensibilisation et la proposition de solutions. Mais évidemment, on m'a beaucoup, réduite à mes actions choc, en fait. Mais dès le début, j'avais la volonté d'instaurer un dialogue avec le milieu paysan et politique.
Finalement, on exploite ce qu'on vous reproche. Parce que s'il n'y avait pas eu des actions proches, vos livres, n'auraient pas eu de succès et au pire, n'auraient pas été édités.
Tout à fait. Ouais. Et donc après ça, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle « Désobéir avec amour » pour contextualiser les actions de désobéissance civile du mouvement antispéciste, parce qu'elles étaient très mal comprises. Et c'était une manière de les mettre en perspective par rapport aux autres luttes sociales. Et donc là, il y a eu une transition, parce que j'étais encore très active dans le militantisme. Et en 2019, quand on s'est installé ici à Fresnières-sur-Bée, je me suis dit, OK, bah, j'ai le choix. Soit je continue à être dissidente, comme je l'ai fait toutes ces années. Ça collait bien avec mon caractère, c'était OK. Mais je prends le risque de partir en prison. Donc, c'est un paradoxe auquel je ne voulais pas me résoudre. Et donc, je me suis dit, OK, j'arrête les actions de désobéissance civile pour pouvoir m'occuper vraiment pleinement du sanctuaire et parce que j'ai besoin de voir des effets à court terme de ce que je faisais. Le militantisme, il est essentiel pour viser des changements de société à 15, 20, 25 ans. mais j'avais besoin d'avoir un impact sur des animaux à court terme et sur des éleveurs éleveuses aussi idéalement. Et donc c'est pour ça que j'ai pas arrêté parce que je croyais plus dans ces méthodes. Je me suis dit, en fait, en Suisse, on a fait pas mal de bruit. Il y aura d'autres associations qui continuent à en faire, des enquêtes, des choses comme ça. Mais mon but, c'était de proposer quelque chose qui était complémentaire.
Alors, ça vous a donné une crédibilité, pardon. Mais une crédibilité dans le fait de dire, voilà, ce que je dénonce, je vais non seulement y consacrer ma vie de façon militante, mais de façon extrêmement concrète. Je vais me lever le matin, je vais vivre le gel, la canicule, etc. Enfin...
Oui, c'est ça. Et de mettre en pratique les valeurs que je prônais, c'était essentiel parce que souvent, d'ailleurs, il est reproché aux militants antispécistes de rien connaître aux animaux et de vouloir les défendre. Et je voulais vraiment prouver que c'était une erreur. Qu'il y a des militants, bien sûr, qui n'y connaissent rien. C'est comme ça. Mais il y en a quand même beaucoup qui font le choix de s'imprégner de ces espèces, les vaches, les cochons, les moutons, qu'on connaît très mal, pour pouvoir apprendre ce que c'est que le quotidien à leur côté. Et bien sûr, là, vous voyez, je suis encore en travaux parce que je suis toujours en train d'améliorer chaque année les infrastructures pour qu'elles collent au mieux aux besoins des animaux. Mais donc, cette transition, elle s'est faite comme ça. Et aujourd'hui, j'en vois vraiment les effets. Je vois le dialogue
justement,
qui s'est instauré.
C'est source de joie, j'imagine, parce que c'est difficile quand on s'attaque à une cause. Dieu sait si celle-là est un Everest. Comme vous le disiez, la fin de la consommation de viande, de votre vivant, peut-être qu'il y aura un collapse général. C'est possible. Hein, on est dans une sale période, mais a priori, c'est quand même une grosse, grosse montagne à gravir. Et puis, il faut trouver un peu de joie, il faut trouver du courage. C'est tous ces animaux que vous m'avez présentés qui vous l'apportent ?
Aussi. Alors après, j'aime bien préciser le fait que je ne me suis jamais engagée en faveur des animaux juste pour me sauver moi-même ou donner un sens à ma vie.
Je pensais du courage de la lutte. Quoi.
Mais il faut continuer, bien sûr.
Il faut se lever le matin. Quoi.
Ah oui, c'est clair. Et puis, de toute façon, je pense que dans n'importe quelle lutte sociale, ça, j'en suis convaincue, il faut une pluralité de méthodes pour faire bouger les lignes, en fait. Et donc, oui, les actions des obéissances civiles sont une approche. Les stands de sensibilisation, les conférences, le lobbying politique, les sanctuaires, tout ça, ça va ensemble. Et donc, aujourd'hui, je m'inscris dans cette complémentarité-là avec le sanctuaire, mais c'est clair que je vois des effets bénéfiques tous les jours, pour les animaux eux-mêmes, bien sûr, mais pour tout le public qui vient. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient en total désaccord avec mes actions passées. Il y a des gens qui refusaient d'entendre mon message parce que la forme ne leur convenait pas. Ils viennent ici, ils pleurent devant un cochon, puis il y a leur vie qui change, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a des gens par le passé qui étaient aussi sensibilisés par le biais de ces actions. Mais en fait, ces actions, d'ailleurs, dans l'histoire des luttes sociales, c'est une réalité. Les actions coup de poing ont surtout pour but de forcer un débat qui est nécessaire. C'est pas de convaincre l'opinion publique à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, avec Coexister, c'est imposer un débat qui est urgent. Mmh. Parce qu'il y a une catégorie de la population qui souffre d'une injustice qui est criante, quoi. Et donc, aujourd'hui, Coexister a pour vocation d'être plutôt fédératrice, où on dépasse les clivages, en fait. On dépasse les clivages entre les animalistes, les éleveurs, les autorités, le monde politique, etc. Et on essaye de juste se poser à côté d'une vache et d'un cochon et de réfléchir différemment avec l'individu concerné à côté. On n'est plus dans de la théorie ou de la philosophie. Là, c'est très, très concret.
Bon, vous l'avez effleuré pendant la première partie de l'émission. Ce concret-là, il va jusque dans les instances fédérales, il va jusqu'au Parlement européen. Vous avez évoqué les horizons de production alimentaire en Suisse qui vont vers la végétalisation. Donc, il y a une vraie prise de conscience qu'il faut à minima diminuer la consommation de viande. Vous êtes à l'aise dans ce monde, je vous vois sur les réseaux sociaux être dans des séances très sérieuses au Parlement, etc.
Alors, à l'aise, oui, parce que les personnes avec lesquelles on collabore, elles sont relativement ouvertes d'esprit quand même, et je vois le sens. De toute façon, il y a une suite logique. Nous, on constate des choses sur le terrain qu'on fait remonter au niveau politique, et heureusement que les associations font ça, pas que moi, hein, beaucoup, beaucoup d'autres. Donc, je suis à l'aise. Par contre, évidemment, mon impatience naturelle...
J'allais vous poser la question de la politique et de vous faire élire.
Je ne suis pas du tout patiente comme personne.
Truc,
Je ne suis pas patiente. Par contre, j'ai appris à accepter, en fait, d'une certaine façon, ou à me résigner à l'idée que ça va prendre du temps, le changement structurel politique va prendre du temps, mais il faut continuer à y mettre de l'énergie. C'est comme ça qu'on fait bouger les lignes. Et c'est pour ça que j'aime cette alternance entre le concret, là, ce matin, depuis 6h jusqu'à votre arrivée à 11h, je nettoyais des bouses. Et puis, ça, c'est très concret. Je m'occupe des animaux, je leur fais les soins nécessaires. Et puis, peut-être que cet après-midi, j'ai une visioconférence avec des personnes impliquées en politique, je ne sais pas. Donc voilà, en gros, c'est ça. Mais c'est cette pluralité des approches qui fait bouger les lignes. Et je trouve ça parlant. D'ailleurs, pour anecdote, il y a quelques mois, on a participé à une émission avec la RTS qui s'appelle Weekend à la ferme, où on était immergés pendant 2 jours avec des bouchers, des éleveurs, des chasseurs. Et en fait, c'était épique parce qu'à la base, tout aurait pu partir en clash. Surtout qu'il y avait des personnalités très affirmées aussi. Et au final, on s'est retrouvés à quasiment tous pleurer autour des cochons et des vaches au sanctuaire. Donc pour la faire courte, c'était très fédérateur. Et je me dis, là, je vois que quand on parle d'humain à humain et qu'on fait tomber toutes ces étiquettes, en fait, on peut faire bouger les lignes beaucoup plus vite encore. Et d'où cette mission prioritaire qui est la nôtre d'accompagner les éleveurs-éleveuses qui veulent sortir de l'exploitation animale en dépassant ces fameux clivages.
J'aimerais terminer sur quelque chose que j'entends dans votre bouche depuis le début de cette conversation. Vous dites moi, mais pas que moi, hein, beaucoup d'associations, pas que la mienne, etc. Vous avez été dans un moment médiatique, on l'a dit, qui vous a même fait flirter avec le people, hein, de par votre personnalité, etc. Et puis, est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, si c'est trop personnalisé autour de moi, je desserre la cause plus que je ne la sers?
Non, je pense que dans toute lutte sociale, on a besoin de références. C'est comme ça, les humains fonctionnent comme ça. On a besoin de références incarnées dans la personne, dans une personne, pour qu'on puisse s'identifier à un mouvement. J'ai pas voulu, en fait, j'ai absolument pas cherché à aucun moment être cette figure de référence, à aucun moment. Ça s'est présenté sur ma route, je me suis dit, ok, bah, si j'ai une utilité là, j'y vais. Par contre, depuis le début de mon engagement, je tiens à mettre en lumière justement d'autres associations, d'autres structures, d'autres personnalités qui font beaucoup pour la cause, même si des fois on s'entend pas, je tiens à le dire, parce que humainement, on peut ne pas s'entendre du tout sur quelque chose, mais valoriser le travail de l'autre. Et ça a toujours été mon approche. C'est pas toujours le cas dans le sens inverse, mais j'essaye de dépasser cette histoire égocentrique. En fait, ça me parle pas du tout.
Bon, vous êtes dans des, je vous interromps parce qu'on est à la fin de cette émission, mais vous êtes dans des réseaux européens. Je vous ai vu plusieurs fois en France, hein, dans des colloques, etc. Il y aura d'ailleurs un colloque ce samedi, hein, le 4 octobre,
tout à fait,
à Genève, auquel vous allez participer. J'ai plus le titre sous les yeux.
Oui,
mais
alors en fait, on co-organise un colloque.
Animal et société.
Animaux et société. Et société, ouais. On co-organise cet événement avec Swiss Veg, qui est une association reconnue aussi en Suisse. Et le but de cette journée, c'est d'enchaîner des tables rondes sur la réflexion du statut des animaux en société par différents prismes. Ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être le militantisme, ça va être le politique et les soins vétérinaires. Et l'idée, c'est vraiment d'encourager les gens à venir, à participer à ces discussions, parce que le but, c'est qu'on ressorte avec des réflexions qu'on va pouvoir mettre en pratique. Et là, bah, typiquement, on fait venir des gens de France, de Suisse, etc., pour débattre là autour. Donc le 4 octobre, c'est à la salle communale de Plainpalais, à Genève, de 10h à 19h.
Merci à vous, Virginie Marcus.
Avec plaisir, merci à vous.